je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire mystérieuse qui se passe dans la nature aux États-Unis. Ça fait partie de mes préférés. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est totalement inconnue en France. C'est une histoire complètement véridique, mais qui est très flippante. On se croirait dans un scénario de film d'horreur. Voilà, je vous le dis clairement, sauf que c'est la réalité. Restez bien jusqu'à la fin. Mais assez parlé. On va partir tout de suite aux États-Unis et on va remonter dans le temps. On va remonter en 2009, il n'y a pas si longtemps que ça. L'histoire se passe à Albuquerque, une ville du Nouveau-Mexique au sud-ouest des USA. Et je vais vous présenter Megumi Yamamoto. En 2009, Megumi, c'est une jeune femme ravissante de 27 ans. Née à Tokyo, d'une mère célibataire, Megumi a passé toute son enfance au Japon avant que sa famille n'émigre aux États-Unis. Megumi, c'est une étudiante brillante. En mai 2009, elle a décroché un diplôme en sciences physiques à l'Université du Nouveau-Mexique. Décrite comme souriante et posée, Megumi a le cœur sur la main. Elle s'investit beaucoup dans des activités humanitaires et elle a déjà travaillé comme bénévole à l'étranger pour des organisations telles que Médecins Sans Frontières. Et c'est pas tout, hein. Megumi, elle a aussi la fibre artistique. Elle joue du violon avec talent. Elle est très très douée. Selon Paul Harrington, son petit ami, un grand jeune homme blond, lui aussi étudiant à l'Université du Nouveau-Mexique, Megumi Yamamoto n'est rien moins qu'une personne exceptionnelle. Début juin 2009, l'année universitaire est terminée. Passionné de randonnée, Paul Harrington veut emmener Megumi marcher dans la nature pour fêter le début des vacances d'été. Le mardi 9 juin 2009, Paul et Megumi partent donc ensemble faire une randonnée dans la forêt nationale de Santa Fe. Située au pied des monts Sangre de Cristo, une chaîne de montagnes à l'extrême sud des Rocheuses, la forêt nationale de Santa Fe est le lieu parfait pour décompresser. Paul souhaite faire découvrir à Megumi un endroit particulier. Il veut lui faire découvrir la zone sauvage de Pecos, un espace protégé au sein de la forêt nationale de Santa Fe. Il est déjà venu l'année précédente, il connaît l'endroit. C'est un endroit très vaste, hein. Ça fait 90 000 hectares, dont 90 000 hectares de nature vierge, de toute construction humaine. Il n'y a aucune habitation là, rien. On peut accéder à cet endroit qu'à pied. Les véhicules à moteur sont interdits. Avec ses lacs d'altitude, ses forêts immenses et ses paysages désertiques, la zone sauvage de Pecos est le paradis des randonneurs. Donc ce jour-là, Paul a emporté avec lui son matériel de camping, sa tente, de l'eau et des vivres, parce qu'en fait, il compte passer la nuit sur place avec Megumi. Le couple doit camper en pleine nature le mardi soir. Vêtu d'une combinaison de ski orange, Megumi semble apprécier la randonnée. Plus jeune, quand elle était au Japon, elle a fait des balades avec sa famille dans les Alpes japonaises. Donc elle est assez sportive, hein, et elle aime bien ça. Dans le courant de l'après-midi, donc le couple marche ensemble sur les sentiers. Voilà. C'est un couple d'amoureux, hein, ils se baladent dans la nature comme ça. Ils sont totalement seuls parce qu'il faut savoir qu'on est en semaine, on est avant le début des vacances scolaires. Le secteur est très vaste, donc ils sont tout seuls. Jusque-là, tout se passe très bien. Le couple passe un moment formidable ensemble, en pleine nature comme ça. Il y a quand même un petit problème qui se pose, c'est que Paul, qui est plus grand et sportif que Megumi, il avance plus vite qu'elle. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il est à quelques dizaines de mètres devant elle sur le sentier. Donc là, il décide de s'arrêter. Il s'arrête pour l'attendre. Comme Megumi a un petit peu de retard, Paul il a quelques secondes devant lui. Donc il en profite pour faire une pause. Il sort une barre de céréales, voilà, pour grignoter, et puis il en profite pour admirer le paysage. Et pendant ce temps-là, il voit du coin de l'œil la silhouette de Megumi approcher. Rappelez-vous qu'elle portait une tenue orange. C'était assez voyant. Mais voilà, il en profite. Il se tourne un peu et il admire le panorama. À un moment donné, quand même, il trouve que Megumi met du temps à arriver. Donc là, il se retourne à nouveau vers le sentier. Et là, il se rend compte que Megumi n'est plus là. Je me suis retourné et elle avait disparu. C'est ce que Paul Harrington va déclarer plus tard dans les médias. Donc là, Paul, il ne voit plus Megumi sur le sentier. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'elle était tout près, lui. À 10, 20 mètres, pas plus, hein. Donc là, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur ses pas. Il revient. Il marche jusqu'à l'endroit précis où il a vu Megumi pour la dernière fois. Là, il s'arrête et il scrute les alentours. Mais il n'y a personne. Il est complètement seul. Paul, il comprend pas. Il est déconcerté, hein. Mais il est aussi très inquiet parce que Megumi n'était jamais venue. Elle ne connaît pas du tout la région, hein, contrairement à lui. Donc, il se met à la chercher. Voilà, il l'appelle, il crie son nom. Hein, seulement personne ne lui répond. C'est le silence total et il sait vraiment pas quoi faire. Donc il cherche sur le sentier, il cherche aussi en dehors du sentier, sans trop s'éloigner non plus pour pas se perdre. Mais il est incapable de retrouver Megumi. Hein. Donc là, pendant des heures, il fouille le secteur. Mais le problème, c'est que il n'arrive pas à retrouver Megumi. C'est comme si elle s'était volatilisée. Plus les heures passent et plus la situation empire, parce que non seulement Paul n'arrive pas à retrouver Megumi, mais en plus, la météo se gâte. Ce mardi 9 juin 2009, il avait fait un temps splendide jusque-là, vraiment un grand ciel bleu, un grand soleil. Mais là, le temps vire à l'orage. En fait, il y a une tempête de neige qui se déclenche sur la montagne. Ça arrive parfois, même début juin, au Nouveau-Mexique, dans cette région des monts Sangre de Cristo. Et c'est exactement ce qui arrive ce jour-là. Donc là, Paul, pour se protéger des intempéries, il n'a pas d'autre choix que de monter sa tente et de se réfugier à l'intérieur. En fin d'après-midi, début de soirée, la météo se calme un peu, la tempête se calme, mais Paul, il est toujours coincé dans sa tente, hein, l'endroit où il s'était réfugié, hein, où il est calfeutré là. Et depuis des heures, en fait, il n'arrête pas de se poser des questions. Il y a les questions qui tourbillonnent dans sa tête. Il se demande où peut bien être Megumi et aussi pourquoi elle est sortie du sentier. Seulement, il n'a pas de réponse. Mais ce que ne sait pas Paul, c'est que au même moment, en début de soirée, un hélicoptère de la police d'État du Nouveau-Mexique, un Augusta A109, est en train de survoler le secteur. Pas au-dessus de lui, hein, exactement, mais dans le coin. En effet, les services d'urgence du comté de Santa Fe ont reçu à 16h40 un appel de détresse de Megumi. Megumi a composé le 911 pour demander de l'aide, hein. Elle a appelé les secours avec son téléphone portable parce qu'elle était en difficulté. On ne sait pas trop ce qui s'est passé exactement, mais apparemment, elle s'est perdue dans la zone sauvage de Pecos. Le petit détail assez terrifiant, c'est qu'elle a tenté d'appeler 7 fois le 911, donc le numéro des urgences, mais tous ces appels ont été transférés vers des lignes administratives et non des lignes d'urgence. Tous ces appels se sont perdus en gros. Vous savez, des fois, quand vous appelez une administration, bah, ça peut arriver que vous vous retrouvez dans le mauvais service, hein. Bah, là, c'est pareil, apparemment, les appels de Megumi sont tous partis au mauvais endroit. Il y a eu un bug technique inexpliqué. Il y avait bien du réseau téléphonique, hein, elle réussissait à joindre le standard du 911, mais à chaque fois, le standard perdait ses appels. En fait, elle essayait d'appeler les secours, elle essayait d'appeler la police, mais à chaque fois que l'opératrice du 911 décrochait, eh bien ses appels étaient tout de suite réorientés ailleurs. C'est vraiment étrange ce qui s'est passé, hein. On en reparlera plus tard, mais bon, la police d'État du Nouveau-Mexique n'a jamais réussi à expliquer ce problème technique. Ce problème technique ne s'était jamais présenté auparavant et il ne s'est jamais reproduit depuis. Donc là, on a perdu du temps parce que le portable de Megumi, les lignes téléphoniques et le standard du 911, tout avait l'air de planter, hein, sans raison. Megumi a quand même réussi à parler à l'opératrice au bout d'un moment et à prévenir le secours. Mais là, deux autres problèmes se sont posés. Premier problème, pour une raison inconnue, il y a encore eu un bug technique. Les services d'urgence n'ont pas réussi à géolocaliser avec précision le téléphone de Megumi. Ils savaient à peu près dans quel périmètre elle était, mais pas où exactement. Second problème, plus grave, l'hélicoptère n'a pas pu décoller à cause du mauvais temps. Il est resté coincé au sol. Donc en fait, Megumi n'a pas eu d'autre choix que d'attendre. Personne ne pouvait aller la chercher et personne ne pouvait aller la secourir. C'était trop périlleux à cause de la météo. En début de soirée, la tempête s'est un peu calmée et donc l'hélicoptère a pu enfin décoller. Il a pu décoller et partir dans la zone sauvage de Pecos. C'est le fameux hélicoptère qu'entend Paul dans sa tente. À bord de cet hélicoptère, il y a deux personnes. Le pilote d'abord, donc le sergent Andrew Tingwall, et un autre policier de la police d'État nommé Wesley Cox. Donc Cox, il est au poste d'observateur. Comme je vous disais, on n'a pas réussi à géolocaliser avec précision le téléphone de Megumi. Donc en fait, les sauveteurs ne savaient pas où la chercher précisément. Par conséquent, il y a encore eu un problème. L'hélicoptère est parti au mauvais endroit. L'hélicoptère a volé jusqu'au Lake Catherine, alors que Megumi attendait les secours à Spirit Lake, à environ 2 km au sud-est. Donc pendant un bon moment, l'hélicoptère a survolé la zone à la recherche de la randonneuse. Mais il n'était pas dans le bon secteur, donc il risquait pas de la trouver, hein. Là, on a encore perdu du temps. Mais à 20h14, quand même, juste avant le coucher du soleil, L'hélicoptère a enfin repéré Megumi grâce à sa combinaison orange qui se détachait bien sur le sol. Megumi se situait donc à environ 500 mètres au sud-ouest de Lake Spirit. Vous voyez ça sur la carte. Donc là, Tingwo, les Cox dans l'hélicoptère, voient la randonneuse au sol. Donc ils la voient, elle est en train de leur faire des grands gestes. Elle est bien en vue au milieu d'une petite clairière. Le pilote Tingwo estime qu'il peut atterrir pour récupérer Megumi. Donc voilà, il procède à l'atterrissage. Il atterrit sans encombre, près du lac, Spirit Lake. Et lui et Cox descendent pour aller prêter assistance à Megumi. Donc cette randonneuse en détresse, elle est frigorifiée, c'est vrai qu'elle était seule depuis des heures comme ça en pleine nature. Donc il la récupère, il lui donne une couverture et ensuite ils remontent tous les trois à bord de l'hélicoptère. Voilà. Donc Tingwo regagne son poste de pilotage, Cox et Megumi sont à l'arrière de l'hélicoptère sur une banquette. Selon toute apparence, l'opération de recherche et de sauvetage est un succès. Mais il faut qu'ils se dépêchent là, il faut qu'ils se dépêchent parce que apparemment la tempête qui s'était calmée est en train de regagner en intensité. Il y a des vents assez violents qui commencent à balayer le sol, la neige qui commence à tomber à nouveau. Tingwo, qui est un assez bon pilote, il examine le ciel et il voit une trouée dans les nuages, il se dit qu'il est encore possible de rentrer. Donc il prend la décision de redécoller. Donc là, Tingwo redécolle, même si les conditions de vol sont assez compliquées. Hein. Il est en contact avec le centre de dispatch de la police d'État du Nouveau-Mexique, le standard de la police en gros. Hein. Et il se trouve que, hasard ou coïncidence, c'est sa femme qui est au standard ce jour-là. Sa femme qui s'appelle Legan Tingwo. C'est une policière et justement, elle est en service au standard cet après-midi-là. Ce qui est terrible, c'est qu'elle va être témoin en direct du crash de son mari. Toute la conversation audio va être enregistrée. Donc apparemment, là, Tingwo reprend de l'altitude, il est en train de s'éloigner, en train de repartir de la zone de sauvetage. Et il passe un moment près du Mont Baldist, une montagne qui est assez imposante. La météo est assez exécrable, hein, mais bon, apparemment, tandis qu'il passe près de cette montagne, il se retrouve dans l'obscurité totale. Le pilote est totalement aveugle, il ne voit plus rien. Et il y a une rafale de vent qui pousse, vraisemblablement, l'hélicoptère contre la montagne. La queue de l'hélicoptère percute la montagne. Et là, le pilote perd le contrôle de l'appareil. Donc l'hélicoptère est en train de tomber vers le sol. Tingwo essaie de sauver la situation. Il fait tout son possible pour reprendre la main. Mais la situation est critique. La situation est critique tellement que sa femme l'entend respirer bruyamment. Il est en état de stress intense. Elle entend tout en direct, sa femme. Hein. C'est ça qui est assez terrible. Hein. À un moment, la femme de Tingwo entend son mari dire aux passagers de se cramponner. Et là, la communication cesse brutalement. Donc là, la situation, elle est critique. Hein. Mais Tingwo, c'est un bon pilote. Parce qu'il réussit quand même à poser l'hélicoptère en difficulté sur une pente abrupte du Mont Baldy. Il réussit à poser l'appareil. Malheureusement, l'hélicoptère va basculer dans un ravin. Là, l'appareil fait plusieurs tonneaux. Voilà, donc c'est l'horreur totale. À l'arrière de l'hélicoptère, Cox et Megumi ils sont apparemment l'un contre l'autre. Hein. Ils se serrent l'un contre l'autre. Ils observent la scène impuissants. Ils savent là que leur vie ne tient qu'à un fil. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Donc pour Cox, apparemment, c'est une vision insupportable. Hein. Il ferme les yeux. Et quand il rouvre les yeux, quelques secondes plus tard, il voit que Tingwo, le pilote, n'est plus dans le cockpit. Hein. Il a été éjecté. Tout comme Megumi, qui n'est plus dans ses bras, elle a été apparemment arrachée de ses bras. Donc là, le crash n'a pas pu être empêché. Et quand l'hélicoptère, ou du moins ce qu'il en reste, s'immobilise enfin, Cox, donc le policier qui était au poste d'observateur, qui était avec Megumi sur la banquette arrière, il se rend compte qu'il est toujours en vie. Il se rend compte qu'il est toujours en vie, mais son corps lui fait mal. Il souffre beaucoup parce qu'il a une jambe cassée et une blessure assez sévère au dos. Là, Cox, il réussit tant bien que mal à sortir de l'épave de l'hélicoptère. Et il cherche les autres. Il cherche les autres, mais il voit personne. Il voit personne. À un moment donné, il entend quand même un cri de douleur. Et il se rend compte que c'est Tingwo, le pilote, qui est quelque part au-dessus de lui, dans la pente. Mais bon, il n'arrive pas à le voir parce que c'est l'obscurité totale. La nuit est tombée, il fait mauvais temps, donc la visibilité est très mauvaise. On va apprendre plus tard que Tim Wall, il a le bassin et une jambe brisée. Il est aussi grièvement blessé. En plus, on ne sait pas trop où il est dans un endroit un peu inaccessible, en hauteur. Cox, il est en mauvais état, très mauvais état, il est incapable d'aller l'aider, hein. Donc là, Cox se met à chercher Megumi. Donc il se déplace comme ça avec difficulté autour de l'épave de l'hélicoptère. Il y a de la neige là parce qu'on est en altitude, hein. Il fait froid, il y a du vent, c'est vraiment des conditions assez hostiles, hein. Il se déplace à environ 30 mètres de l'hélicoptère. Là, il y a des rochers. Et à cet endroit, au milieu des rochers, il trouve Megumi. Megumi, elle a une énorme fracture au crâne. Elle a le crâne ouvert et elle est morte. Elle est vraisemblablement morte sur le coup. Donc là, il n'y a plus grand-chose à faire pour elle, malheureusement. Vu qu'il fait froid, vu qu'il fait nuit, Cox décide de se réfugier à l'intérieur de l'épave de l'hélicoptère afin de se protéger des intempéries. Il peut pas venir en aide à Tim Wall parce qu'il sait pas où il est. En plus, il est blessé lui-même, hein, donc c'est compliqué, c'est compliqué. La nuit passe tant bien que mal et le lendemain matin, donc le mercredi 10 juin 2009, Cox prend la décision de quitter le lieu du crash pour aller chercher des secours. Il part, mais il part en boitant parce qu'il a une jambe cassée, hein, il est vraiment dans un sale état, hein. À cet instant, au moment où il part, Cox, il ignore que Tim Wall est lui aussi décédé au cours de la nuit, des suites de ses blessures. Il était vraiment aussi très amoché et en plus, voilà, il a fait vraiment très très froid cette nuit-là. On était en altitude. On ne sait pas de quoi il est mort exactement. Est-ce qu'il est mort des suites d'une hémorragie, mais ou plutôt d'une hypothermie? L'hypothermie était peut-être plus probable parce que il ne portait qu'une combinaison de vol, hein, lors du crash. Il n'était pas très couvert. Donc Cox est quand même un gars solide, hein. Il va réussir malgré ses blessures à marcher 1,5 km, donc dans la montagne, avant de tomber sur des secouristes. Il tombe sur des secouristes et il est pris en charge à bord d'un Black Hawk, un hélicoptère de la garde nationale du Nouveau-Mexique. Il est ensuite donc héliporté jusqu'à un hôpital, l'hôpital Saint-Vincent de Santa Fe, où il reçoit des soins. Le mercredi après-midi, la météo s'améliore un peu et les autorités du Nouveau-Mexique envoient deux avions ainsi que deux hélicoptères Black Hawk de la garde nationale encore dans la zone sauvage de Pecos pour aller sur les sites du crash. Et dans la soirée, les sauveteurs localisent enfin la carcasse de l'hélicoptère au nord-est du mont Baldy, à plus de 3 600 mètres d'altitude. Et au milieu d'un champ de débris qui mesure 250 mètres, les secouristes vont trouver les cadavres de Timo et de Megumi. Le bilan du crash est assez lourd, hein. Deux morts et un blessé dans un état grave. À l'annonce de la nouvelle, Paul Harrington, le petit ami de Megumi, qui n'était pas au courant, rappelez-vous qu'au moment des faits, il était bloqué dans sa tente, au sol, assez loin de sa copine. Quand il apprend la nouvelle, le lendemain, Paul, il est en état de choc. Suite au décès de Megumi Yamamoto, les autorités du Nouveau-Mexique préviennent sa famille au Japon, parce que Yonko Yamamoto, la maman de Megumi, était retournée vivre au Japon plusieurs années auparavant. Et lorsque Yonko Yamamoto apprend le décès de sa fille, quand elle apprend le drame, pour elle, c'est le monde qui s'effondre, parce que elle et sa fille étaient restées très proches. Yonko Yamamoto était une mère célibataire et elle a confié que sa fille l'avait toujours beaucoup aidée et soutenue depuis sa naissance. C'était vraiment quelqu'un de bien, quoi. Donc Madame Yamamoto prend tout de suite un vol depuis le Japon pour se rendre au Nouveau-Mexique. Et elle arrive à Albuquerque le samedi 13 juin. Le lundi 15 juin 2009 sont organisées les funérailles du sergent Andrew Tingwall et de Megumi. Yonko Yamamoto, donc la maman de Megumi, participe à la cérémonie funéraire du sergent Tingwall, qui était marié et père de deux fillettes. En fait, le drame a vraiment affecté beaucoup de gens dans la région. On en a beaucoup parlé, notamment dans les médias, parce que Tim Wall, c'était quelqu'un aussi d'attachant, c'était quelqu'un de très apprécié de ses collègues. Voilà. Ce jour-là, ce lundi 15 juin 2009, il y a aussi un service religieux qui est organisé à la mémoire de Megumi. Et durant la cérémonie, l'émotion est très vive encore. Paul Harrington, le petit ami de Megumi, prend dans ses bras la mère de Megumi, donc Madame Yamamoto, pour la consoler. Vous voyez une photo prise lors de cette cérémonie. Il y a peu de photos disponibles, mais cette photo est assez touchante, je trouve. Voilà. 6 jours après le drame, Paul Harrington est toujours très très marqué. Il n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a pu se passer ce jour-là. Donc cette histoire, elle est avant tout tragique, elle est très triste, mais elle est aussi très effrayante parce que l'enquête a révélé que Megumi a incontestablement manqué de chance ce jour-là, ce 9 juin 2009. Il y a eu un nombre anormal de bugs techniques qui se sont produits hein, juste au moment où Megumi avait besoin d'être sauvée. Hein. Quand elle était seule et en difficulté dans les montagnes sangrées des cristaux, elle a tenté d'appeler 7 fois le 911. Mais tous ces appels sont partis dans le néant. Ils ont été transférés vers d'autres lignes. Et il y a eu un bug technique aussi inhabituel qu'inexpliqué. Les autorités du Nouveau-Mexique, les experts, ont été incapables d'expliquer ce dysfonctionnement qui ne s'était jamais produit avant et qui ne s'est jamais reproduit depuis. Ça s'est produit exactement au moment où Megumi avait besoin d'aide. Donc c'est vraiment plus que dommage. Et c'est pas fini. Rappelez-vous que les services techniques n'ont pas été capables non plus de géolocaliser le téléphone de Megumi à ce moment-là. Un temps précieux a encore été perdu. Quand l'hélicoptère de la police d'État a décollé, il est parti dans la mauvaise direction, on a encore perdu du temps, voilà. Je pense que si tout s'était passé sans encombre, on aurait gagné du temps et peut-être que Megumi aurait été sauvée, peut-être qu'elle aurait été secourue avant que la tempête se gâte à nouveau. Moi je pense que tout ce temps perdu a été préjudiciable à Megumi. S'il n'y avait pas eu tous ces bugs, tous ces problèmes techniques, peut-être qu'elle aurait été sauvée. Même si on ne la connaissait pas personnellement, quand on lit sa description, quand on lit ce qu'elle avait fait dans sa vie, on se rend compte que Megumi, c'était vraiment une personne exceptionnelle, c'était vraiment une personne hors du commun. C'était vraiment une belle personne. Et qu'une belle personne connaisse une telle fin, qu'elle cumule autant de malchance, c'est vraiment à la fois très triste et cruel. Ce qui est assez flippant, je trouve, dans cette histoire, c'est que quand on lit le récit des événements, eh bien, on a vraiment l'impression que le destin de Megumi était scellé ce jour-là. C'est comme s'il fallait qu'elle meure ce jour-là. C'est vrai que ça fait peur hein, quand on regarde tout ce qui s'est passé. Comme vous savez, je suis fan de cinéma, notamment des films d'horreur. Et donc la tragédie de Megumi, ça me rappelle le scénario d'un film d'horreur assez connu. Destination finale, voilà, certains d'entre vous l'ont peut-être vu il y a des années. Destination finale, c'est un film d'horreur qui est sorti en 2000. C'est un film assez hollywoodien, c'est un film pour teenagers, c'est assez formaté, ça fait pas vraiment peur, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Dans ce film, on suit les aventures d'un étudiant américain qui doit partir en voyage à Paris avec des amis. Mais pendant qu'ils attendent que leur avion décolle, donc à l'aéroport, le héros a la vision d'un crash aérien. Il a vraiment une impression mentale très forte que l'avion va se planter, quoi. Paniqué, il fait descendre en vitesse tous ses copains de l'avion. L'avion qui explose effectivement peu de temps après le décollage. Donc le héros a sauvé la vie à tout le monde. Les jeunes ont survécu à une mort certaine. C'est un véritable miracle. Mais la mort n'est pas d'accord. La mort, la faucheuse, estime qu'ils devaient mourir ce jour-là, que c'était leur destin. Et elle va tout faire pour reprendre son dû.
Grâce à toi, je suis toujours en vie.
On dit qu'on ne peut pas prévoir l'heure de notre mort. Mais on sait qu'elle peut survenir à tout moment.
En descendant de l'avion, vous avez déjoué la mort.
C'était un hasard.
Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. Il vous faut deviner comment et quand elle va revenir.
Voilà, donc c'est le scénario de Destination Finale. C'est pas un film exceptionnel, mais bon, au moins, il y a une petite originalité au niveau du scénario. Et moi, l'histoire de Megumi, ça me rappelle vraiment le scénario de ce film d'horreur. Dans l'histoire de Megumi Yamamoto, on a vraiment l'impression que tout était ligué contre elle ce jour-là. Vraiment, comme s'il ne fallait pas qu'elle reparte vivante de ces montagnes. Comme si une force maléfique ne voulait pas qu'elle s'en sorte. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elle n'aurait jamais dû faire cette randonnée ce jour-là. Elle n'aurait jamais dû aller dans ces montagnes. Elle n'aurait jamais dû aller avec son petit ami. Bien sûr, c'est toujours plus facile à dire après, mais bon, on se dit que vraiment, son destin aurait basculé si elle avait fait le choix de ne pas y aller, ou peut-être un autre jour. Tout ça, ça s'est joué à très peu de choses, je pense. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une histoire dramatique, une histoire assez effrayante que je voulais partager avec vous. Mais c'est pas terminé, on va passer maintenant à la partie commentaire-analyse. Juste avant, quand même, une petite remarque, si on doit tirer au moins une leçon de cette histoire, c'est que voilà, si vous allez vous promener dans la nature en couple, comme ça, dans des lieux vraiment déserts, si vous êtes avec votre copine ou l'inverse, si l'autre personne n'est pas expérimentée, si elle va moins vite que vous, attendez-la. Attendez-la, voilà, essayez quand même de ne pas la distancer, parce qu'on voit que là, si Paul, dans cette histoire, était resté à côté de Megumi, s'il ne l'avait pas distancée, s'il avait réduit son allure pour rester à côté d'elle, marcher à la même vitesse qu'elle, eh bien tout ça ne serait pas arrivé, tout simplement. Donc, voilà, si vous allez vous promener en couple ou même en famille, rester ensemble tout le temps, vraiment c'est très important, c'est une règle de sécurité élémentaire, mais bon, que certains oublient malheureusement. Et on voit que quand on omet de respecter certaines règles de prudence dans la nature, dans les espaces sauvages, eh bien, ça peut vite basculer au drame. Je vous ai présenté les faits, on va maintenant passer à une partie commentaires et analyses, parce que ça n'est pas terminé, non, ça n'est pas terminé. Bon, il y en a certains parmi vous qui vont partir, parce que bon, il manque de temps ou ça les intéresse moins, mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir écouté jusque-là et puis à bientôt, à une prochaine. Les autres, on va rester ensemble, on va continuer parce que moi, j'ai encore pas mal de choses à dire. On va prendre le temps. Voilà, on est là, on est entre amis. J'ai beaucoup de choses à dire encore et notamment aussi sur cette zone du Nouveau-Mexique qui est assez passionnante. On va parler notamment de Roswell, on va en profiter. Pour revenir à Megumi, je vais commencer par dire qu'on entend souvent les gens dire du bien des personnes décédées une fois qu'elles ne sont plus là. Les proches et les médias ont souvent tendance à dresser un portrait idyllique des gens qui ont quitté le monde des vivants. Ça arrive souvent de voir des gens qui sont très critiqués du temps de leur vivant et dès qu'ils meurent, voilà, on leur fait des louanges, on leur fait des compliments, on dit qu'ils étaient exceptionnels, que c'était des gens formidables. Voilà, c'est un peu le politiquement correct de notre époque. Mais en ce qui concerne Megumi Yamamoto, tout ce qui a été dit sur elle était vraiment justifié parce que c'était vraiment un être à part. C'était vraiment ce qu'on appelle une belle personne. Et sa fin n'en est que plus poignante. Voilà, c'est vraiment... ça fait vraiment de la peine pour elle et aussi pour ses proches, pour sa maman. Bon, alors, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais bon, c'est vrai que moi ça m'attriste beaucoup de voir comment cette jeune femme a pu être fauchée comme ça alors qu'elle avait toute la vie devant elle. Puis c'était vraiment quelqu'un qui avait des projets, qui avait presque une mission sur Terre. Hein. Elle travaillait dans des organismes humanitaires, voilà, elle aimait rendre les gens heureux autour d'elle. Elle jouait de la musique de très belle manière, voilà, bon bref. Et elle a été tuée dans cet accident totalement improbable, suite à cette journée complètement insensée, voilà. Je pense que durant sa vie, elle aurait sûrement fait des belles choses encore, mais bon. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Et c'est vraiment dommage que tout ça se soit arrêté au cours d'une banale randonnée. Voilà. Ça va sembler bateau ce que je dis, mais bon, c'est vrai que la vie est vraiment injuste parfois. Vraiment injuste. Bon, je vous connais par cœur, je suis sûr que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a pas que Megumi, il y a aussi d'autres personnes qui ne mériteraient pas de mourir, évidemment. De toute façon, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui méritent de mourir et d'autres non. Là, je fais le focus sur Megumi. Donc, moi, je trouve qu'en ce qui la concerne, c'est vraiment, vraiment regrettable qu'elle soit partie aussi vite, quoi. Voilà. Tout simplement. On va maintenant essayer de comprendre un peu mieux ce qui a pu arriver, comment une telle catastrophe a pu se produire. On va passer en revue les ingrédients du drame, mais avant toute chose, je vais évoquer la responsabilité du pilote. Comme souvent dans ce type de drame, certains ont cherché des responsables. Et là, certains ont pointé du doigt le pilote de l'hélicoptère, le sergent Andrew Tingwall. Le NTSB, ou Conseil National de la Sécurité des Transports, c'est-à-dire l'agence américaine indépendante chargée d'enquêter notamment sur les catastrophes aériennes, s'est penché sur cette tragédie. Le NTSB a enquêté et en décembre 2010, il a publié un rapport de plus de 1200 pages mettant en cause le pilote, Andrew Tingwall. Le rapport du NTSB a pointé un certain nombre d'éléments ayant contribué à l'accident fatal. Et le sergent Andrew Tingwall a été mis en cause. Considéré comme un bon pilote, Tingwall était quand même un pilote relativement inexpérimenté. Il avait la qualification pour voler sur un hélicoptère, mais pas de nuit et pas par mauvais temps, ni au-dessus d'une altitude de 9000 pieds, soit 2743 mètres. Là, il était au-dessus. Hein. Tingwall a aussi commis des erreurs ce jour-là, apparemment. Hein. Il a commis des erreurs au cours de cette mission de recherche et sauvetage. Il n'a par exemple pas emporté de lunettes de vision nocturne, qui peuvent se révéler très utiles pour voler la nuit. Hein. Sa plus grande erreur, je pense, aura été de redécoller après le sauvetage de Megumi. Quand la météo s'est à nouveau dégradée, là, il aurait dû rester au sol. Bien sûr, c'est toujours plus facile à dire après, mais bon, normalement, Tingwall, il aurait dû rester au sol avec son hélicoptère. Il aurait dû faire tourner les moteurs de l'hélicoptère pour activer le chauffage dans l'habitacle, de façon à ce que lui et ses passagers restent en vie le temps que la tempête se calme et qu'ils puissent repartir. On va maintenant étudier les ingrédients du drame. Si le sergent Tingwall, le pilote d'hélicoptère, a incontestablement joué un rôle dans cette catastrophe, dans ce désastre, il n'est, selon moi, que le rouage d'un système tout entier qui a failli. C'est pas le seul responsable. Je pense que c'est le système tout entier qui a mal fonctionné. Il faut avant tout aussi rappeler une vérité qui est certes douloureuse parfois pour les familles des proches, des disparus ou des victimes d'accidents. On voit bien que dans cette histoire, Paul et Megumi ont peut-être commis des imprudences qui ont eu des conséquences fatales. Voilà. Il faut rappeler encore une fois que quand on va se balader dans la nature, on est avant tout responsable de sa propre sécurité, voilà, en tant qu'adulte, hein, du moins. Évidemment, je ne parle pas des jeunes enfants, mais je pense que il faut déjà essayer d'être prudent par soi-même. Ce rappel fait, on peut quand même dire que Megumi a indéniablement joué de malchance ce 9 juin 2009. On peut dire qu'elle a même connu la loi de Murphy. Voilà. La loi de Murphy, c'est la loi dite des emmerdes maximum, voilà, pour parler un peu crûment. Pour faire simple, c'est la loi de la tartine beurrée. Voilà. C'est-à-dire qu'une tartine beurrée tombe toujours sur le côté beurré. Voilà, je vous l'avais peut-être remarqué, chères spectatrices et spectateurs. Voilà, ça se vérifie pratiquement tout le temps. Et toujours selon cette loi de Murphy, si quelque chose doit mal tourner, c'est ce qui se passera. Voilà, c'est une vision qui n'est pas très optimiste de l'existence, mais bon, qui se vérifie parfois. Ça se vérifie, il faut dire, des fois on a des mauvaises journées, on a l'impression que tout va de travers. Et là, malheureusement, les conséquences ont été fatales. Revenons maintenant sur la chronologie des faits et revenons sur les événements négatifs ayant conduit au décès de Megumi. J'ai dénombré pas moins de 11 incidents. Premier incident, grain de sable, appelez ça comme vous voulez. Lors de la randonnée, Megumi est séparé de Paul, son petit ami, pour une raison inconnue. On peut dire que c'est le début du commencement des problèmes. Dans quelles circonstances exactes l'étudiante a été séparée de son petit ami? Comment s'est-elle retrouvée seule comme ça, aussi vite? Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment pourquoi Megumi a disparu du sentier. Est-ce qu'elle est sortie volontairement de ce sentier? Est-ce qu'elle n'aurait pas eu peur, par exemple, d'un animal sauvage, d'un reptile, d'un serpent qui était peut-être là, juste à ce moment-là, sur son passage? Est-ce qu'elle ne serait pas sortie du sentier pour aller au petit coin, par exemple? Ça arrive, hein, il y a aussi des histoires assez dramatiques de randonneurs, de randonneuses qui se sont perdus et qui ont péri comme ça, en pleine nature. Après être sorti du sentier, voilà, il y a une histoire assez connue comme ça. Deuxième incident, deuxième grain de sable. Comment se fait-il que Paul n'ait pas réussi à retrouver Megumi moins d'une minute après l'avoir eu dans son champ de vision? Parce qu'ils étaient sur le même sentier, hein. Selon ses déclarations, elle était tout près. Comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à se retrouver l'un et l'autre? Comment se fait-il qu'ils ne se soient pas entendus parce qu'ils se sont appelés, selon toute vraisemblance? Il y a un autre point qui est étrange aussi, c'est que Megumi portait une tenue très voyante, une combinaison orange. C'est visible de loin. Alors pourquoi est-ce que Paul n'a pas réussi à la repérer? C'est très étrange, à moins que Paul n'ait pas dit toute la vérité, parce que là, on s'est fié à ses déclarations. Attention, je ne suis pas en train d'insinuer qu'il a joué un rôle dans le décès de Megumi, non, non. Mais ça s'est peut-être pas passé de la façon dont il a raconté. Peut-être qu'ils se sont perdus d'une autre façon. Peut-être que sur le sentier, Paul était beaucoup plus loin devant Megumi. Peut-être qu'il a beaucoup plus distancé qu'il ne l'a dit. Parce que là, il a quand même commis une faute. Même si, encore une fois, il n'est pas responsable de sa mort. Mais bon, il aurait, dans ce cas-là, dû rester avec elle. Ça, c'est certain. À moins qu'ils se soient disputés, chamaillés pour une petite chose sans importance, mais qu'ils se soient séparés momentanément. Peut-être que Paul a décidé de partir seul, et puis que Megumi est resté un peu derrière. Voilà. Et c'est là que le drame est survenu. On ne sait pas. En tout cas, c'est quand même très troublant qu'il n'ait pas réussi à se retrouver aussi peu de temps après avoir été séparés. Surtout qu'ils étaient complètement seuls dans ce coin-là. Megumi n'avait aucune raison, a priori, de sortir du sentier, de s'éloigner. C'est très étrange. Troisième grain de sable, Megumi se perd seule dans la montagne. Au lieu de revenir vers le sentier, au lieu de revenir vers Paul, elle s'enfonce dans la pampa et elle se perd un peu plus. Ça va ne faire qu'aggraver les choses. Quatrième incident, quatrième grain de sable, et celui-là, il est de taille. Donc Megumi compose cette fois le 911, le numéro des urgences, mais à chaque fois, ses appels sont déroutés vers des lignes téléphoniques administratives et non des lignes d'urgence. Voilà, les appels s'égarent dans l'administration, voilà, vous savez ce que c'est, parfois ça arrive. Alors, du temps est perdu donc à cause de ce bug technique. C'est un bug rarissime, encore une fois, hein, la police d'État n'a pas réussi à déterminer la cause de ce problème. Cinquième incident, cinquième grain de sable, un nouveau problème technique est survenu. Les autorités du Nouveau-Mexique n'ont pas réussi à géolocaliser le téléphone portable de Megumi. En général, on utilise un système par triangulation. Ça marche très bien d'habitude, mais là ça n'a pas fonctionné. Sixième incident, sixième grain de sable, l'hélicoptère de la police d'État du Nouveau-Mexique, qui était bloqué jusque-là à cause de la météo, décolle enfin. Mais il part dans la mauvaise direction, faute de localisation précise. Il ne savait pas où était Megumi exactement, donc il est parti au mauvais endroit. Septième incident, septième grain de sable, l'hélicoptère de sauvetage survole un long moment la zone de la disparition, la zone sauvage de Pecos, mais il ne parvient pas à repérer Megumi. Huitième incident, quand les sauveteurs réussissent enfin à trouver Megumi et qu'ils lui viennent en aide, qu'ils atterrissent pour la récupérer, au moment où ils repartent, eh bien, la tempête de neige recommence. Neuvième incident, et pas des moindres, au moment où l'hélicoptère repart, le pilote perd soudain toute visibilité, l'hélicoptère percute la montagne et se crache. C'est pas fini, mais on est presque au bout. Hein. Dixième incident, le pilote Tim Wall réussit à poser l'hélicoptère, tant bien que mal, mais malheureusement, il bascule dans un ravin. Onzième et dernier incident, l'incident final, j'ai envie de dire, Megumi ne survit pas à l'accident, contrairement à Cox, le policier, qui était assis juste à côté d'elle. Cox s'en est sorti avec des blessures, mais Megumi, qui était assis à quelques centimètres, elle ne s'en est pas tirée. Au vu de tous ces éléments, je pense qu'on peut raisonnablement affirmer que c'était pas son jour. Moi, je dis pas ça pour lui manquer de respect, hein, mais bon, plus pour alléger un petit peu l'atmosphère, parce que c'est vrai que c'est pas gai tout ça, c'est pas gai. Hein. C'est vrai, quand on voit la malchance qu'elle a eue ce jour-là, c'est quand même assez peu croyable. Hein. C'est à croire qu'elle avait le mauvais œil, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Hein. Parce qu'en plus, il faut souligner que les crashs d'hélicoptères lors des opérations de recherche et de sauvetage sont assez rares. Et même ailleurs, le taux d'accident mortel en hélicoptère est assez faible. D'après la FAA, Federal Aviation Administration, l'autorité de référence dans le secteur de l'aviation civile aux États-Unis, il y a eu 106 crashs d'hélicoptères aux États-Unis en 2016 et seulement 17 fatales. Bien sûr, c'est toujours trop, mais bon. Ça fait à peu près, en gros, 15% d'accidents mortels. C'est quand même assez faible comparé aux accidents d'avion. Parce que dans les accidents d'avion, souvent, c'est dans la majorité des cas mortels. Ça, c'est sûr, ça, c'est radical. Donc, au vu de ces chiffres, on peut dire que l'hélicoptère, c'est un mode de transport qui est relativement sûr en temps normal. Pour revenir aux mésaventures de Megumi Yamamoto, il faut se poser la question, est-ce que c'est la simple faute à pas de chance ? C'est ce qu'auront tendance à penser les plus cartésiens d'entre nous. Ou est-ce que ça ne cacherait pas autre chose? Quelque chose de peut-être plus sinistre. Donc pour ceux qui connaissent mon travail, qui me suivent depuis des années, Ils savent que je suis quelqu'un de cartésien, mais aussi très ouvert aussi sur l'inexpliqué, sur le monde de l'invisible. Voilà, moi j'ai tendance à penser qu'on ne sait pas tout. Je pense que malgré les immenses progrès réalisés par la science au XXe siècle et au XXIe siècle maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on ignore, que l'homme ne parvient pas forcément à comprendre, à s'expliquer. Et voilà, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et puis reconnaître qu'on n'est pas capable de tout expliquer, qu'il y a des choses qui nous échappent. Voilà, donc c'est pourquoi maintenant je vais ouvrir mon esprit, voilà, je vais réfléchir, parce que je trouve que c'est très intéressant de se poser des questions, même quand on n'a pas les réponses. Je pense que se poser les questions est plus important même que d'obtenir les réponses. On est là, on est entre amis, on réfléchit tranquillement, on va réfléchir à des explications théoriques, mais intéressantes. Peut-être que l'explication n'est peut-être pas aussi terre-à-terre que celle qui nous vient à l'esprit, hein, un simple manque de chance. Donc on réfléchit, on ouvre notre esprit, on essaie d'envisager d'autres possibilités. Voilà, on envisage l'impossible, disons-le clairement. Parce que bon, c'est vrai que quand on observe les événements, on a vraiment le sentiment que tout était ligué contre Megumi ce jour-là. Hein. Comme si quelque chose, je ne saurais pas décrire cette chose, mais bon, comme si une force ou une forme d'intelligence inconnue ne voulait pas que cette jeune femme sorte vivante de ces montagnes. On a vraiment l'impression qu'il ne fallait pas qu'elle reparte vivante. Enfin, c'est vraiment le sentiment que ça donne, hein, quand même. Hein. Et dans l'affirmative, il faut se demander quelle pourrait être la nature de cette force. Une force surnaturelle, possiblement. On va rappeler la définition du surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui ne s'explique pas par les lois naturelles. Donc, si on considère que les événements tragiques qu'a connus Megumi n'étaient pas dus au hasard, ça voudrait dire qu'ils ont été provoqués par quelque chose qui n'est peut-être pas connu de la science. Voilà, tout simplement. Moi, je n'ai pas la réponse, mais bon, je trouve que c'est intéressant de s'interroger, réfléchir à cette possibilité totalement théorique, encore une fois. Mais bon, quand on observe la photo de Megumi, et vu les informations qu'on a sur elle, vu son histoire, la façon dont elle a été décrite par ses proches, par ceux qui l'ont côtoyé, eh bien, on a vraiment l'impression que c'était un peu une figure angélique, hein. C'est vrai. Hein. Bon, ne prenez pas ça au pied de la lettre, je ne suis pas en train de dire que c'était un ange. On est dans le symbolique, là, on est dans le symbolique. Mais je trouve qu'il y a un peu de vrai là-dedans, quand même. C'est vrai que Megumi, elle était belle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'après ce qu'on dit ses proches. Hein. Donc on se demande qui aurait bien pu lui vouloir du mal. Continuons. Notez, c'est un fait que Megumi a perdu la vie dans des circonstances un peu obscures, près d'un petit lac de montagne appelé Spirit Lake. Et Spirit Lake, ça veut dire le lac de l'esprit. C'est assez troublant. Il serait intéressant de savoir pourquoi on a donné ce nom à ce petit lac. C'était sans doute il y a très très longtemps. Et vous savez, autrefois, les gens ils se fatiguaient pas trop pour donner des noms lieux. Hein. Je veux dire, par exemple en France, il y a un lac en Haute-Savoie qui s'appelle le Lac Vert. J'aimerais bien y aller d'ailleurs, hein. C'est magnifique comme coin. Eh bien apparemment, on l'a appelé ce lac le Lac Vert pour la simple et bonne raison qu'il est de couleur verte. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a des reflets des sapins dans l'eau. Et il y a aussi apparemment une algue verte qui donne cette coloration au flot. Ce lac était vert, les gens l'ont appelé le Lac Vert. En Bretagne, pas loin d'où je vis, on a l'étang aux fées. Hein. L'étang aux fées, on a aussi dans la forêt de Brocéliande, le miroir aux fées. Hein. C'est assez courant. Et parce qu'en fait, dans les légendes celtiques, apparemment, des fées vivaient à cet endroit, dans des temps très anciens. Retournons maintenant aux États-Unis. Bah, peut-être que dans ce petit lac perdu du Nouveau-Mexique, peut-être que il y a des siècles et des siècles, il y avait un esprit qui vivait là. Hein. C'est peut-être pour ça que les autochtones, les Amérindiens, les premiers habitants de l'Amérique du Nord, ont baptisé ce lac ainsi. Hein. Peut-être que les Native Americans pensaient qu'il y avait un esprit qui vivait là, une entité, voilà. Et on sait que dans les légendes indiennes, souvent, les esprits, les entités n'étaient pas toujours bienveillantes, loin de là. Il y a beaucoup de légendes assez terrifiantes comme ça, indiennes. Donc voilà, Spirit Lake. Donc c'est très certainement un hasard, une coïncidence, mais bon voilà, force est de constater que Megumi Yamamoto a perdu la vie dans des circonstances tragiques, tout près d'un lac qui s'appelle le lac de l'esprit. Voilà. Je vous ai parlé d'ange tout à l'heure, mais bon, ce qui est intriguant aussi, c'est un détail encore, mais bon, c'est que Megumi Yamamoto a péri dans des montagnes qui s'appellent les monts Sangre de Cristo. Et Sangre de Cristo, ça veut dire le sang du Christ, en espagnol. En fait, ce nom Sangre de Cristo, ça a été donné à ces montagnes par un explorateur espagnol nommé Antonio Valverde y Cosio en 1719, dont cet explorateur espagnol avait aperçu les sommets enneigés de ces montagnes qui sont teintés de rouge. Il y a vraiment une lumière spéciale à cet endroit. Il avait vraiment été impressionné par ces couleurs. Et là, il aurait dit en parlant des montagnes, « Sangre de Cristo, c'est le sang du Christ !» Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc on a abordé donc une possible explication paranormale, surnaturelle. Maintenant, on va se pencher peut-être sur une explication d'ordre ufologique. Je ne suis pas ufologue, mais je m'intéresse à cette question. C'est vrai que moi, j'ai noté quand même que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de bugs techniques à répétition. Il y a eu des problèmes de téléphone, des problèmes de triangulation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une activité magnétique anormale dans cette zone du Nouveau-Mexique ? Une activité magnétique qui perturberait le fonctionnement des appareils électroniques. C'est possible, hein, c'est possible. Par ailleurs, on a déjà apparemment observé beaucoup de lumières étranges dans le ciel du Nouveau-Mexique, dans cette zone précise en plus. Et il faut noter aussi qu'on n'est pas loin du célèbre Roswell, hein, ou plutôt du site du crash de Roswell, qui n'est distant que de 220 km à vol d'oiseau. On est tout près à l'échelle des États-Unis, c'est juste à côté. Le sujet de Roswell, c'est un sujet qui est controversé, qui est souvent mal connu. On a tous entendu parler de Roswell. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas trop de quoi il retourne. Donc c'est un sujet qui est souvent tourné en ridicule, hein, Roswell qui n'est pas pris au sérieux. Or, il s'est quand même passé des choses intéressantes. Et je vais profiter justement de la vidéo d'aujourd'hui pour en parler. Parce qu'on est au Nouveau-Mexique, voilà, on a parlé d'une histoire mystérieuse qui se passe juste à côté de Roswell. Donc je vais prendre 5 minutes pour vous rappeler ce qui s'est passé à Roswell. Voilà, parce que c'est quand même intéressant. Je ne suis pas ufologue, mais bon, j'ai pris des renseignements auprès de Franck Morin, voilà, un ami ufologue qui connaît bien le sujet. Donc j'ai des informations qui sont plutôt fiables. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Roswell, donc pas très très loin de l'endroit où Megumi a péri? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ceux qui connaissent déjà les faits, bon, ça sera à titre de rappel. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce qui s'est passé à Roswell. Voilà, donc tout a démarré en fait en juillet 1947, le 3 juillet 1947. Au lendemain d'une nuit d'orage, un fermier nommé Mac Brazel a trouvé des débris éparpillés, bizarres, sur ses terres, près de Roswell. Il a ramassé des morceaux et a contacté le shérif local. Ce dernier a alors transmis l'information à la base militaire la plus proche. Après une première inspection du site, des militaires ont bouclé le périmètre et ils ont collecté les débris qu'ils ont ensuite emmenés à la base de Roswell avant d'être transférés vers celle de Fort Worth au Texas, puis à Washington. Bon, jusque-là, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire. Mais bon, ce qui est passionnant, c'est que le 8 juillet 1947, donc 5 jours plus tard, le lieutenant Walter Haute, chargé des relations publiques du Roswell Army Field, a transmis un communiqué de presse annonçant qu'un disque volant avait été récupéré par l'armée. Un disque volant. L'information a ensuite été reprise par la presse mondiale. Mais un démenti a été formulé rapidement par le général Ramey, attribuant l'épave à un ballon sonde secret nommé Mogul. Donc l'armée a annoncé la découverte d'un ovni, d'un engin possiblement d'origine extraterrestre, avant de se rétracter. Ils ont annoncé, puis ensuite ils ont dit que non, en fait c'était un ballon sonde. C'est bizarre. Par la suite, l'incident de Roswell a été assez vite oublié. mais il a refait surface en 1980 à l'occasion de la sortie du livre The Roswell Incident par Charles Berlitz et William Lee Moore. Dans leur ouvrage, les deux auteurs ont contredit la thèse officielle. Ils ont affirmé qu'il ne s'agissait pas des fragments d'un ballon-sonde, mais de ceux d'une soucoupe volante d'origine extraterrestre. Et pour dire ça, ils se sont basés sur une enquête auprès de 90 témoins. Ce livre a relancé sur cet événement une polémique qui n'a jamais été refermée depuis. Sur Roswell, les avis sont très partagés. Certains soutiennent la thèse d'un crash extraterrestre, affirmant même qu'un autre site a été trouvé par des archéologues avec une seconde épave, des corps et même un alien vivant. Ça va assez loin, hein ? D'autres pensent que tout ceci n'est qu'un canular, ou peut-être une opération de désinformation. Il faut se rappeler qu'en 1947, on était au début de la guerre froide. L'armée américaine a peut-être voulu intoxiquer les soviétiques en leur faisant croire, par exemple, qu'ils avaient récupéré de la technologie alien, extraterrestre, voilà. Et bon, c'est vrai que c'est un dossier qui est très complexe. On se souvient aussi de la vraie fausse autopsie d'un extraterrestre prétendument récupéré à Roswell. C'était en 1995, voilà. C'était qu'un canular grossier destiné à faire de l'argent. Le problème, c'est que voilà, ce genre de canular, ça a un petit peu décrédibilisé tout le reste. Or, il s'est bien passé quelque chose en 1947. Hein. C'est vrai que tellement de choses ont été dites, écrites depuis 70 ans au sujet de Roswell qu'on ne sait plus trop quoi penser. Hein. C'est vrai que on a du mal à se faire une idée, une opinion. Moi, le premier. Mais quand même, il est possible qu'il se soit passé réellement quelque chose en 1947. Parce que vu la réaction des autorités, vu la façon dont l'armée américaine a réagi, ça paraît un peu disproportionné pour un simple ballon sonde. Hein. Rappelez-vous qu'ils ont envoyé des soldats sur la zone, ils ont transféré ensuite rapidement les débris, ils ont annoncé avoir récupéré une soucoupe avant de le démentir. Hein. C'est quand même assez énorme si c'est une simple erreur. Et c'est pas tout, hein. Ils ont aussi mis au secret le fermier, McBrazel, qui avait découvert les débris. Ils ont ainsi intimidé des témoins, des organes de presse, etc. Voilà. C'était l'occasion de parler de Roswell pour une fois, parce que ça s'est passé très très près de l'endroit où Megumi a perdu la vie. C'était environ 200 km à vol d'oiseau. Pour en terminer avec la petite partie ufologique, il faut aussi rappeler qu'il semblerait que les appareils dysfonctionnent en présence d'ovnis. C'est ce que nous rapportent les témoins. C'est assez connu. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont dans leur voiture, le moteur cale, toute l'électricité se coupe à bord, les feux s'éteignent, leur téléphone portable, pareil, cesse de fonctionner, sont perturbés. Donc, ça fait écho quelque part aussi, encore une fois, avec les mésaventures de Megumi. Tous ces bugs techniques à répétition. Il serait intéressant de savoir si ce mardi 9 juin 2009, on n'a pas vu possiblement des lueurs étranges dans le ciel, dans ce secteur, si on n'a pas vu un objet volant non identifié par exemple, ou un phénomène aérien non identifié, voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire. On n'a pas l'info malheureusement. Donc je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette affaire, je vous laisse réfléchir à tout ça. Peut-être que tout ça n'a aucun rapport, mais peut-être qu'il n'y a plus que l'œil ne peut voir aussi dans cette affaire. Des fois, on se contente de rester à la surface des choses. Et je pense que peut-être qu'il y a une part de la réalité qui peut nous échapper. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui d'avancer plusieurs hypothèses. En tout cas, je trouve que c'est intéressant. Moi, ça nous emmène un peu ailleurs. Ça permet de nous évader de ce quotidien qui est parfois un peu pesant, surtout depuis un an, on va dire. Disons les choses. J'ai quand même tendance à penser qu'il s'est possiblement passé quelque chose d'anormal ce 9 juin 2009. Quelque chose que la raison ne peut peut-être pas comprendre. Voilà. Alors, encore une fois, je ne détiens aucune vérité là-dedans. Je ne prétends pas avoir la vérité. Hein. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Voilà. En tout cas, moi, je pense que le doute reste permis. J'en profite pour vous annoncer que cette histoire est tirée de mon nouveau livre. Disparu dans la nature USA, tome 2. Qui contient 20 histoires vraies et mystérieuses. Si vous cherchez de la lecture pour cet été, pour la plage, ou même si vous restez chez vous, voilà, je pense que ça pourra faire l'affaire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le commander comme les autres sur le lien que vous trouverez dans la description. Pour terminer, bon, je voudrais avoir une pensée pour Megumi Yamamoto et ses proches, évidemment. paix à son âme, ayons aussi une pensée pour le sergent Andrew Tingwell, qui a laissé derrière lui deux orphelines et une veuve. Il a perdu la vie en tentant de sauver Megumi. Il avait déjà sauvé d'autres personnes avant, mais bon, là, malheureusement, ça s'est mal passé. On les oublie souvent, mais bon, il faut tirer nos chapeaux à tous les services de secours, hein, toutes ces personnes qui dédient leur vie à sauver les autres, hein, les pompiers, les sauveteurs en mer. Plus les sauveteurs en mer, il y a beaucoup de bénévoles. Hein, donc, franchement, merci à eux. Merci de faire des sacrifices par moment même, il faut dire les choses clairement, pour sauver des vies. Hein, parce qu'ils en sauvent, ils en sauvent. Et malheureusement, pas mal d'entre eux aussi périssent au cours de leur mission. En cette période un peu de perte de valeur, il suffit de regarder les actualités pour s'en apercevoir. Je trouve qu'ils sont vraiment exemplaires. Ce sont des exemples à suivre et ils méritent tout notre respect. En tout cas, ils ont le bien. Ça, c'est sûr. Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Et voilà. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous. Et puis, surtout, ne disparaissez pas. This one goes out to the man who minds for miracles. This one.